Je vais peut-être revenir par une question à Madame Aline André. Est-ce que vous pourriez me citer les associations caritatives qui n'ont pas eu ce qu'il fallait pour vivre cette année ?
Simplement le CCAS, puisqu'il y a des refus, c'est pour ça.
Mais c'est pas une association caritative,
le CCAS. Il y a une dotation qui est donnée par la mairie, quoi.
Donc, moi, je pense qu'une association caritative, c'est les Restos du Cœur, c'est qui a eu son matériel et qui a eu un travail conséquent de nos ouvriers et pour mettre en valeur ces Restos du Cœur. Il y a toujours le travail avec l'épicerie solidaire, il y a toujours le travail avec l'épicerie solidaire de M. Pour moi, ce sont ça des associations caritatives. Quant aux baisses des bénéficiaires du CCAS, je pense que vous participez au conseil d'administration du CCAS. Tout est expliqué correctement. Donc, je ne vois pas où il y a eu des baisses de bénéficiaires du CCAS. Au contraire, au prochain CA du CCAS, vous verrez qu'il y a quand même un léger excédent. Donc, s'il y a un excédent, pourquoi on aurait refusé des aides ? Je ne vois pas qui. Enfin, bon, voilà. C'est une question que je repose. Je suis surpris de savoir qu'il y a des baisses de bénéficiaires au CCAS. Je suis le premier surpris.
Ce sont les chiffres
oui,
que vous
y a
donnez.
Oui, mais il n'y a pas de baisse de dotation. Donc, s'il n'y a pas de bénéficiaires qui se présentent, on ne va pas aller chercher ailleurs. Hein ?
Alors, on est bien d'accord que la subvention au CCAS n'est pas diminuée, n'a pas été diminuée. Voilà, on recadre les choses. Ces aides sont attribuées uniquement par les agents du CCAS. Nous, on n'en a pas accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Madame Germain pour avoir les questions. Bien évidemment, on n'a pas le nom des personnes, on n'a pas toutes ces choses-là, mais elle va vous expliquer pourquoi. Ce sont des systèmes encadrés. Et il n'y a aucune consigne qui est donnée dans le sens de ne pas donner d'aide. Ce n'est pas du tout le cas.
Pas plus tard qu'hier soir, il y a un jeune qui s'est présenté qui n'avait pas de logement. Ben, il a été logé cette nuit, il a eu à manger hier soir, il a eu à manger ce matin. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui était en perdition avec les gilets jaunes sur la rond-point à Lers. Ben, il a été logé, il a été écouté, il a été... Donc, je peux difficilement laisser dire qu'il y a une baisse des bénéficiaires, Monsieur Ostrat.
Oui, ce qu'on évoque ici, c'est... Vous dites, et je pense que c'est un peu incongru, hein, vous dites que vous n'avez pas la main mise sur le CCAS. Ce que je sache, c'est que vous subventionnez le CCAS, automatiquement, ils vous doivent des comptes sur ce qu'ils font et la politique qu'ils mettent en place. Donc vous donnez les subventions et ils font ce qu'ils veulent avec.
Non, les agents respectent les normes fixées au niveau national. Attention,
on est bien d'accord.
Ce sont des missions exercées par des agents du CCAS dans un cadre posé par l'État, où nous, on a juste à financer, c'est tout. Parce que c'est ça que je veux dire, on n'a pas de marge de manœuvre.
Oui, vous savez quand même ce qui s'y passe dans cette instance.
Bah, évidemment.
Vous avez donc les statistiques également, et vous voyez aussi ce qui se passe sur le tissu de votre commune, avec des personnes qui ne viennent pas au CCAS parce qu'elles sont trop fières à tout ce qui s'ensuit. Et c'est un peu ce que Mme André dit, c'est sur les moyens mis en place par la ville pour aller chercher ou voir ces personnes en souffrance, c'est sur ça qu'elle attire l'attention. Ce que vous n'entendez
donc
pas.
Le nombre de demandeurs diminue, mais comme je vous dis, hier soir, il y avait encore quelqu'un qui s'est présenté, il a été accueilli, il a été...
Donc, oui, mais monsieur le maire, vous savez très bien que les personnes qui sont en souffrance n'ont pas forcément ni Internet, ni un téléphone, parce que la première chose qu'on dit lorsqu'on va voir les services sociaux, c'est qu'on leur dit, si vous avez les moyens d'avoir un portable, c'est que vous n'êtes pas si malheureux que ça. Donc ça, vous le savez quand même, au niveau des services sociaux, comment ça se passe. Donc, si les personnes n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette fierté ou ce courage de venir se déplacer, je pense qu'il y a un petit effort à faire pour aller justement voir chez ces gens ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Il y a des vecteurs que sont les écoles, il y a aussi les associations sportives qui peuvent remonter effectivement toutes ces souffrances, toutes ces problématiques, toutes ces personnes qui Donc ça, c'est le lien du tissu social. Donc le fait de faire du saupoudrage avec des personnes qui viennent vous courtiser pour vous demander ou que vous connaissez dans votre entourage, ce n'est pas faire du social, monsieur le maire.
Monsieur Strass, soyez pas... Commencez pas comme ça, c'est pas... Bon. Monsieur Debré, il peut témoigner qu'il n'y a pas de saupoudrage des personnes que je connais dans mon entourage. Arrêtez.
Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le nombre de personnes qui demandent des aides, qui sont en hausse. Et ça c'est dû, malheureusement, à la politique de... Bon, je n'aurai pas de nom, mais tout le monde actuel. Hein, et ce qui est malheureusement à craindre, c'est que ça va leur augmentant, ce nombre de bénéficiaires. Parce que...
Non, ça diminue.
Donc c'est ça qui m'inquiète surtout, moi. Et puis aussi les menaces qu'on fait peser sur le personnel en disant toujours que le personnel, il coûte cher. Je pense qu'une mairie sans personnel, ben, elle ne peut rien faire du tout. Hein.
Je pense avoir été un des maires à avoir tenu compte des salaires et n'avoir pas hésité à augmenter le personnel. Vous pouvez leur demander quand ils ont eu droit à une augmentation et quand il y a eu des différences que nous avons découvertes en arrivant. Nous avons pallié à ces différences en remontant les salaires qui étaient plus bas que les autres. Je parle du personnel de restauration, par exemple.
Je vais répondre aux questions, même si maintenant elles commencent à se mélanger un peu. Donc, pour la partie CSAS, je pense que là, les questions, on a plutôt répondu. Concernant la taxe foncière non bâtie, je vais regarder. Je suis content d'avoir une proposition sur le budget. Donc, on va essayer de regarder pour le budget la taxe foncière non bâtie. On va voir ce que ça pourrait faire. Ensuite, sur le côté, Madame André, quand vous dites que c'est un budget imposé, vous allez dire que c'est un budget imposé qui vous est imposé. Mais moi, je peux vous assurer que le budget de la ville est un budget imposé, vu les charges que nous avons et les obligations qui nous incombent. Alors, je vais répondre aux questions du groupe qui se concentre uniquement sur la question lissoise. J'ai bien entendu, c'est uniquement l'Issois, bien que quand on parle d'augmentation du nombre de demandeurs ou de bénéficiaires, c'est comme la politique nationale qui joue également dans ces choses-là. Quand on voit une baisse de dotation, c'est également la politique nationale qui compte. Quand ce sont les moyens de la police nationale ou de l'éducation nationale qui diminuent, c'est la politique nationale qui compte. Mais bon, c'est pas grave. On revient sur le côté l'Issois. Donc moi, il y a une chose que j'aimerais quand même que vous m'expliquiez, j'arrive vraiment pas à comprendre. Vous êtes en train, à chaque conseil, mais vraiment, de nous dire « empruntez ». Vous avez inscrit une somme, vous empruntez moins, c'est pas bien, on veut que vous empruntiez plus. Expliquez-moi la logique.
S'il vous plaît, je me permets de vous répondre. Ouais. C'est absolument pas ce qu'on vous dit.
En tout cas, c'est ce que j'ai compris.
Mademoiselle Desmulliez a simplement posé une question. Il y a une différence entre ce que vous annoncez en termes d'emprunt, et ce que vous annoncez, et ce que vous empruntez, effectivement. On vous pose la question, comment la justifiez-vous ?
Très simplement. Et j'ai déjà répondu, je réponds chaque année à la même question, parce que notre autofinancement prévu est inférieur à notre autofinancement réalisé, car il y a quelquefois des dépenses qui sont reportées, ou des dépenses, quand on met des dépenses inscrites en investissement, elles sont souvent supérieures aux réalisées, donc ce qui permet de montrer un différentiel. Et ça, c'est une chose qui a toujours été faite dans les budgets municipaux de la ville de Lys. Et je parle sous le contrôle de Madame la DGS. Je pense qu'au moins depuis les années 90, c'est le cas. Hein. Ça a toujours été comme ça. On prévoit plus nos dépenses, on majore un peu nos dépenses.
Au niveau du budget primitif, on évalue les dépenses telles qu'on peut les avoir.
Évidemment.
Et après, parce que... Une fois que c'est voté, on peut effectivement négocier avec les fournisseurs, faire les appels d'offres. On réduit au maximum et on resserre au maximum les prix qu'on peut obtenir. Ce qui fait le différentiel et qui nous permet d'avoir
exactement
un autofinancement réalisé plus important que ce qui était prévu initialement. Mmh. La base, c'est ça. Et c'est toujours c'est ce qu'on a tout le temps fait, c'est de travailler au mieux tout ce qui était devis, demande de prix et négociation de prix pour pouvoir avoir un autofinancement plus important.
Voilà. Donc ensuite, pour en revenir, donc je vais passer à l'autofinancement, vu que Madame Rasson employait ce terme. L'autofinancement n'est pas exceptionnel. On pourrait attendre, j'aimerais un autofinancement supérieur, évidemment. Mais vous parlez de page. Moi, je vous montre la page numéro 23.
Vous avez les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. En rouge, donc en rose, les dépenses de fonctionnement. Et en bleu, les recettes en haut et les dépenses en bas. Chaque année, les adjoints aux finances ont toujours dit l'effet ciseau. Je n'ai pas employé ce terme. Parce que vous voyez que nos dépenses, elles ont diminué et nos recettes ont légèrement augmenté. Donc, ce qui nous donne une épargne brute supérieure, donc une épargne nette supérieure, donc un autofinancement meilleur. Voilà. Donc, sur l'autofinancement, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait des efforts sur l'autofinancement. Surtout que si, je vais faire un peu de poétique fiction, mais si on n'avait pas eu cette baisse des 800 000 euros, on aurait 800 000 euros d'autofinancement supplémentaire. Donc, on sera à plus d'un million cinq d'autofinancement. Non, mais voilà, il faut aussi se rendre compte qu'on a dû encaisser aussi cette baisse de recettes. Hein. Faut en être conscient.
Oui, mais moi, je sais lire de ce que vous dites également, page 24. Oui. Vous dites vous-même que la progression de notre autofinancement dans les années à venir semble ardue du fait de la réduction des marges de manœuvre,
évidemment,
que ce soit en dépenses ou en recettes.
Mais
c'est
évidemment
là-dessus que je voulais surtout insister. Oui. Ce n'est pas sur le temps actuel, c'est sur l'avenir et la progression.
Mais il n'y a jamais été écrit que c'était exceptionnel, qu'il ne fallait pas faire attention. Depuis 2014, on fait attention à chaque fois, à chaque dépense qu'on a supprimée ou qu'on a diminuée. Vous êtes toujours, vous avez toujours manifesté votre opposition. À chaque fois. Et là, maintenant, vous avez dit qu'il y a quand même des... Vous reconnaissez qu'il y a un travail qui a été effectué. Ouais, c'était reconnu. Mais si vous aviez eu à faire ces budgets, on n'en serait pas là. Vu vos positions, on n'en serait pas là. On en serait avec un autofinancement négatif. Avec deux autofinancements négatifs, c'est la mise sous tutelle. Voilà. Nous, on l'a rétabli. Ensuite, pour les caméras, oui, il y a évidemment les... Pour les caméras, oui, c'est également les subventions qui ont été données pour les sites. Mais
François, tu peux répondre que les...
Pour les caméras.
Bonsoir à tous. En effet, il y a une augmentation du prévisionnel concernant les caméras. Il y a déjà des travaux qui étaient prévus à hauteur de presque 50 000 euros. Mais en plus de cela, il y a le remplacement d'un matériel qui est obsolète, qui était posé sous l'ancienne mandature, sur certains secteurs de la commune. Et il y a un secteur également qui a été touché, notamment en fin d'année dernière et début de cette année, concernant certaines problématiques de dégradation de véhicules ou autres, je pense que vous en avez pris connaissance. Et... qu'on va devoir équiper cette année. On a souhaité avec Monsieur le maire, après avoir reçu les riverains, d'équiper ce secteur, qui est en plus un point névralgique et un point de passage, un point qui est pas loin de la frontière et qu'on estime important d'équiper. Voilà pour ces 92 000 euros. Ensuite, vous parliez également du matériel de la police municipale, c'est ça, à hauteur de 9 000 euros. Il faut savoir qu'il y aura le remplacement de l'armement. Armement qui a plus de 20 ans maintenant, donc du matériel qui est également obsolète et qu'on se doit de remplacer pour la sécurité de nos agents. On trouve ça normal. Et dernier point, concernant les chiffres de la délinquance, donc pour faire suite à ce que vous avez évoqué, je pense que l'année dernière, on avait fait un point, une synthèse, on a été clair sur ces chiffres et je compte refaire ça cette année. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez été convoqué le 28 mars, pour qu'on puisse faire un point sur le sujet. Voilà.
Et enfin, la dernière question, peut-être que j'ai oublié, mais le dernier point que j'ai même soulevé dans ma présentation, c'est les dépenses de personnel. Dites-nous quel service il faut supprimer. On maintient les services, on en a même créé de nouveaux. Quel employé, quel service faut-il supprimer ?
Pas question de suppression de services, mais il peut y avoir, je ne sais pas, vous aviez commencé des mutualisations avec d'autres villes. De l'intercommunalité, au moment de ce qui se passe au moment de départ en retraite, je ne sais pas. Bon, là, les heures supplémentaires, c'est positif. Bon, est-ce que... Bon, quelles sont les pistes? Et vous-même, vous parlez des pistes pour réduire les dépenses. Moi, je ne fais que lire votre rapport et vous poser les questions par rapport à ce que vous écrivez.
Des emplois, même si on a déjà fait des suppressions de postes comme directeur de cabinet ou des directeurs adjoints, tout ça, ça a déjà été supprimé. Donc il y a déjà des postes qui n'ont pas été remplacés. Il n'y a qu'un seul poste qui est conservé, c'est pour les services techniques, parce que c'est très large avec les ateliers. Donc il n'y a que là qu'il y a besoin d'avoir un directeur général adjoint. Donc il y a quand même déjà des postes qui ont été supprimés. Il y a également un effort qui a été fait au niveau du service enseignement et service régie. On a mutualisé aussi nos services. Quand il y a des créations de services, on en parlera sans doute dans quelques instants, il n'y a pas de création de poste. Il y a un changement d'affectation. Il y a des choses qui sont faites. Il y a par exemple un syndicat du Val-de-Marc qui a fait les permis de construire. C'est un début de mutualisation. Pourtant, je ne pense pas qu'à ce moment-là, vous étiez convaincu par ce dispositif de mutualisation avec les autres communes. On travaille avec le syndicat intercommunal, évidemment, pour la piscine. On fait la même chose pour l'école du Petit Prince. On essaie de faire la même chose dans d'autres secteurs. On a mutualisé le garage avec la ville de Roubaix, exactement. Donc voilà, il y a encore des pistes à faire.
Il y a une balayeuse avec l'Hers.
Il y a une balayeuse aussi qui va peut-être être mutualisée avec la ville de l'Hers. Donc il y a des choses qui vont aussi aller dans le sens de la mutualisation, mais ce n'est pas évident. Il y a des choses qui sont à faire. Au niveau des heures supplémentaires, il ne faut pas regarder non plus le nombre total d'heures supplémentaires. Il faut regarder par filière. Parce que quand c'est 2 heures, par exemple, pour la filière animation, on ne va pas recruter quelqu'un pour 2 heures, c'est 2 heures supplémentaires. Pareil pour la restauration, ça dépend de... Et pareil pour la police, bien qu'on soit en recherche toujours du 8e policier.
Par contre, ce week-end, vu les conditions climatiques, nous avons dû mobiliser du personnel. Et là, bien sûr, ce sera en heures supplémentaires. Là, il y a quand même des
aléas. J'ai employé le terme d'aléas.
Ben oui, bien sûr.
Mais quand on voit les réalisations et les distinctions que notre personnel a, je pense évidemment au service finance et je pense aussi à la restauration municipale, on peut pas dire que nos employés, y en a trop. Et que leur travail est inutile.
Ce n'est pas ce qui a été dit. On a dit ne pas supprimer les avantages du personnel et les maintenir. C'est plus au niveau financier pour éviter que dans les années à venir, ça prenne une proportion telle qu'on ne puisse plus maîtriser. C'était ça le sens de la question.
Mais dans le contexte national, on est toujours en train de taper sur les employés municipaux, sur les fonctionnaires territoriaux, qu'on tape également dans la fonction publique hospitalière, quand on tape toujours sur les gens qui sont auprès des gens, les premiers relais. Est-ce que vous êtes allé sur un rond-point avec les Gilets jaunes? Moi, je suis allé les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? De proximité et de personnes en face d'eux. Ce sont les employés municipaux, ce sont les employés de la police, ce sont le personnel hospitalier. Et nous, en tant que commune, on ne souhaite pas enlever ce lien. Et ça permet aussi d'avoir de l'emploi local, parce qu'on peut aussi mutualiser, avoir une restauration qui serait externalisée, où les coûts seraient peut-être, et ça j'en suis même pas certain, moins chers. Il y aurait peut-être moins d'employés, mais il y aurait moins d'emplois locaux et il y aurait moins de débouchés pour des apprentis, parce qu'on prend aussi des apprentis.
Il y a aussi une politique, je dis souvent au personnel, de passer des concours. Si vous voulez la promotion, il faut passer des concours. Et on a du personnel de très haute qualité qui passe les concours. Et quand ils réussissent les concours, on leur donne un poste supplémentaire. C'est sûr que ça fait augmenter les salaires. C'est incontournable. Mais c'est la promotion sociale.
Je vais commencer par une petite boutade. Je dirais, par les temps qui courent, les bénévoles, c'est dur à trouver. Quand on fustige un budget trop élevé, puis qu'on dit en même temps il faut garder le personnel, quelque part, il y a une incohérence. Je pense qu'effectivement, le bon sens, c'est d'encenser le personnel, de l'inciter à être bienveillant envers la population et l'encourager à évoluer. Et la proximité, c'est important. Vous l'avez bien compris, effectivement. Moi aussi, je suis allé sur les ronds-points, discuter avec eux. On a besoin de gens qui expliquent à des personnes qui ont des difficultés peut-être à comprendre les choses et pour avoir aussi du répondant, pour avoir des discussions. On est dans une ère où on a beaucoup de virtuels, on a beaucoup de choses qui sont virtuelles. On a besoin de cette proximité, de cette écoute, de ce partage, de cette entente. Voilà. Merci.
S'il n'y a plus de questions, est-ce que l'on peut valider le fait que le débat a eu lieu? Donc, qui valide? Qui est contre? Qui s'abstient?
Ben, je... validé à l'unanimité.